RFJ Info.
Le journal d'Alexandre Rosset.
Bonsoir. La Poste est prête à verser 627 000 francs au Jura pour les malversations financières de cartes postales. Le canton doit désormais signer un accord particulier avec le géant jaune. Sur le plan national, l'addition atteint plus de 200 millions de francs. Attraper sa correspondance à Bienne relève parfois d'un défi. Les Jurassiens seraient de plus en plus nombreux à louper leur train pour quelques secondes. Une question écrite a été déposée au Parlement. Les CFF s'expliquent dans ce journal. La ville de Moutiers n'est pas à l'arrêt, les choses bougent et de nombreux projets sont en développement, selon le conseiller municipal en charge de l'économie. Pascal Eschmann a fait le point aujourd'hui sur plusieurs gros dossiers. Les thermomètres feront le yo-yo ces prochains jours. Elles chuteront demain avant de reprendre des couleurs pour la deuxième partie du week-end. Le temps s'annonce sec malgré quelques pluies ce soir. L'addition est salée pour la Poste. Le géant jaune va rembourser 205 millions de francs à la Confédération, au canton et aux communes pour les malversations financières de sa filiale carte postale. Une convention a été signée ce vendredi à Saint-Gall entre la Poste, l'Office fédéral des transports et les cantons. Chacun des 24 cantons partenaires devra toutefois conclure un accord particulier avec la Poste. L'entreprise propose de verser 627 000 francs au Jura. En février, on évoquait un préjudice de 78 millions. Alors comment en est-on arrivé à 205 millions ? Le président du conseil d'administration de la Poste, Urs Schwaller.
On avait dit qu'il s'agissait de 90 millions. Il fallait ajouter, on ne connaissait pas le montant que nous devons payer, notamment pour le trafic urbain. Après, nous payons les intérêts moratoires de 5%, c'est-à-dire presque 27 millions. Et il était toujours clair qu'il fallait aussi un règlement pour les années 16 à 18. Nous avons décidé de mettre ces trois montants forfaitaires. Le montant est énorme, mais on savait que 100 millions ne serait pas suffisant.
Et même si elle n'y est pas contrainte en raison de la prescription, la Poste remboursera aussi 17 millions pour les falsifications comptables allant de 2004 à 2006. Il s'agit de faire amende honorable, mais aussi de tenter de rétablir la confiance. On retrouve Urs Schwaller.
Nous appartenons à 100% à la Confédération, c'est-à-dire la Poste appartient à nous toutes et tous. Nous avons en face des partenaires, ce sont les cantons et les communes. Et puis maintenant dire, écoutez, nous ne payons rien, parce qu'il n'est pas possible finalement d'intenter une action et puis d'obtenir la gain de cause devant un tribunal, ça ne va pas. On a triché aussi avant 2007 et on veut un règlement. Et je pense que c'est important aussi pour montrer aux cantons, nous voulons tout payer et puis nous payerons tout. Ça doit être une base pour à nouveau créer la confiance qui est indispensable dans ce pays pour quand même une entreprise qui a presque 170 ans et puis qui reste une très bonne entreprise, très performante, et il faut maintenant régler là les problèmes que nous avons rencontrés.
Carte Postale est donc disposée à rembourser 627 000 francs au canton du Jura. Contacté par notre rédaction, le ministre David Herret se dit satisfait de la transparence des chiffres articulés désormais. Le montant évoqué lui semble correct. Pierre Maudet renonce à la présidence de la conférence des directeurs cantonaux de justice et police. L'organisme l'a annoncé aujourd'hui. Le ministre PLR Genevois, qui est impliqué dans une affaire judiciaire concernant son voyage à Abu Dhabi, avait été nommé en avril dernier. Le ministre argovien Urs Hoffmann assurera l'intérim. Les habitants de la région seraient nombreux à louper leur correspondance en gare de Bienne. Le député indépendant Raoul Yegui a déposé récemment une question écrite au Parlement à ce sujet. L'élu de Basse-Cour dénonce une situation purement scandaleuse. Selon lui, il n'est pas rare que les passagers provenant du Jura et de Moutiers voient leur train pour l'Arc-les-Maniques partir au même moment que le leur arrive en gare. Les CFF indiquent que la politique en la matière est d'attendre si le retard n'est que de quelques secondes. Au-delà, la situation se complique, comme l'explique le porte-parole des CFF, Jean-Philippe Schmitt.
Si vous retardez un train à Bienne pour attendre deux minutes un autre train en retard, vous devez faire un choix. Soit vous avez 5 ou 6 personnes qui vont pouvoir prendre ce train, mais dans le train en question, vous avez peut-être déjà 300 personnes qui, elles, vont être retardées, puisque le train va partir en retard et il va être retardé dans les prochaines gares. J'ai regardé le taux de correspondance qui sont assurés à Bienne. Dans le sens de l'alliance autrement, c'est 98,7%. 98,7% des correspondances qu'on doit faire à Bienne sont assurées.
Le musée suisse des fruits et de la distillation a été inauguré officiellement ce matin à Pontruy. Une cérémonie en grande pompe. Près de 200 personnes étaient réunies sur le site d'Auverger d'Ajoie. Des partenaires, mais aussi des représentants des autorités communales, cantonales et fédérales. Tous ont souligné l'importance de ce projet d'envergure nationale. Mais si l'aventure commence pour le musée, il s'agit désormais d'en assurer l'avenir et d'attirer les visiteurs. Pour le président du conseil de fondation, le musée suisse des fruits et de la distillation possède les atouts nécessaires. Pierre Chalère.
On sait que c'est quelque chose quand même d'exclusif. C'est quelque chose aussi qui n'est pas poussiéreux. C'est un centre d'interprétation. On montre la vie du fruit, d'où c'est que ça vient. On peut le toucher. Il est clair que nous avons beaucoup d'intérêt pour les fins de semaine, samedi, dimanche. Maintenant, nous allons travailler aussi pour obtenir du monde en semaine. Et le monde qui se déplace en semaine, ce sont les retraités. Et je dirais, par exemple, voilà, contacter toutes les sociétés ou associations Prosenectute de Suisse. Ce sont des gens qui, la semaine, viendront. Ils ne viendront pas ni le samedi ni le dimanche. Alors, voilà, par exemple, une idée qui me vient comme ça spontanément. Il y en a encore d'autres à faire pour dire, voilà, venez ici. Mais je pense que c'est un défi, disons, qu'on peut relever.
Et retrouvez une galerie photo de cette inauguration sur notre site internet. Le potentiel de développement est utilisé à Moutier. La ville n'est pas un no man's land. Les choses bougent concrètement. Déclaration signée Pascal Eschmann, le conseiller municipal en charge de l'économie. Il a tenu à faire le point aujourd'hui sur les projets industriels et immobiliers qui sont en phase d'aboutissement dans la cité prévotoise. Des emplois seront créés et de nouvelles habitations vont permettre à la population d'augmenter. Les précisions de Raphaël Chalvera.
Le dicastère de l'économie, de l'urbanisme et de l'environnement a d'abord évoqué la zone industrielle des Lèves. Une première usine a été inaugurée l'an dernier et 65 emplois ont été créés. Une deuxième entreprise est en voie d'achèvement et emploiera 18 personnes dans le secteur de l'artisanat. Deux constructions supplémentaires démarreront l'an prochain et permettront la création d'une trentaine de postes de travail. D'autres projets d'implantation sont par ailleurs en cours à la suite de demandes formulées par deux firmes actives dans la mécanique et l'horlogerie. Pascal Eschmann a aussi fait le point sur le projet Moule Industrie entre la rue Industrielle et la rue du Moulin. Un contrat avec un grand groupe zurichois va être signé et marquera le premier pas concret pour la réalisation d'un complexe immobilier, probablement dans les deux ans. On évoque des commerces et des locatifs dans cette zone située en plein cœur de la ville.
Le dicastère de l'économie a également parlé des projets urbains en cours. Raphaël.
Oui, l'élaboration du plan de quartier Villa Holzer, proche de la gare, est achevée. Des bâtiments d'habitation collective doivent sortir de terre. 30 logements sont prévus dans la partie centrale du secteur. À plus long terme, des possibilités de construire seront offertes en bordure de la rue des Gorges et le long de la rue de l'Avenir. La Villa Holzer est maintenue avec ses abords. Quant à la ratification du plan de quartier La Poterie vers le cimetière, elle devrait intervenir le printemps prochain. On y prévoit la construction de 61 appartements résidentiels. Un investisseur s'est manifesté pour réaliser 40 logements sur ce site.
Et Raphaël, le conseiller municipal Pascal Eschmann a enfin profité de sa rencontre avec les médias pour faire un état de la situation un an après l'annonce de la fermeture d'AGC Vert Industriel SA.
Sur les 90 personnes licenciées, 72 ont trouvé une solution à ce jour. Et sur les 18 employés restants, 6 sont encore en activité sur le site et 12 n'ont pas encore trouvé de solution. Quant au volet immobilier d'AGC Vert Industriel, les immeubles locatifs comprenant 42 appartements et une villa ont trouvé acquéreur. D'importants travaux de rénovation sont prévus. En ce qui concerne le site industriel, deux contrats de location ont permis de sauvegarder 8 emplois. La vente est désormais en bonne voie et se fera cette année encore. Elle contribuera à maintenir des postes de travail à Moutier. 5000 m² sont actuellement occupés et une cinquantaine de nouveaux emplois devraient être créés. Les 26 000 m² disponibles devraient être réhabilités puisque des entreprises sont en contact avec le futur acheteur.
Un manque de dialogue inacceptable pour La Neuville, Saint-Imier et Moutier. Les maires des trois communes se sont unis cet après-midi pour dénoncer la fermeture des succursales de l'Office régional de placement prévu pour fin octobre. Ils exigent du gouvernement bernois qu'il fasse marche arrière. Ils dénoncent aussi le fait qu'ils ont été informés de cette décision en même temps que les médias, sans dialogue préalable. Pour le maire de Saint-Imier, Patrick Tanner, cette décision unilatérale démontre le peu de considération accordée aux communes concernées. Sur le plan culturel, le Café du Soleil de Seignelay-Légier fera la part belle au concert cet automne. Il a dévoilé ce matin la programmation de sa nouvelle saison. Une programmation qui se veut variée. Théâtre, ateliers artistiques et expositions sont notamment prévus. Une dizaine de concerts sont aussi à l'affiche dans des genres très différents, allant du jazz à la musique classique. Les précisions du coordinateur de l'espace culturel du Café du Soleil, Thomas Lousley.
En fonction des différents genres musicaux, c'est clair que ce n'est pas toujours le même public. Hein. Ceci dit, le but, c'est de réussir à mélanger un peu le public. Ça fonctionne parfois à petite dose. Et je dirais que surtout le public régional qui connaît le Café du Soleil prend le risque de venir écouter peut-être une musique dont il n'a pas l'habitude. Quelqu'un qui viendrait au matin classique, il se dit « Tiens, je vais une fois écouter un concert de jazz » ou quelqu'un qui ne jure que par le hip-hop et le rock, il va peut-être venir écouter une soirée chanson ou jazz aussi.
Est-ce qu'il y a un point fort de la saison qui vous plaît particulièrement ou que vous avez envie de mettre en avant ?
Personnellement, je me réjouis beaucoup pour les deux concerts de jazz de cette saison qui seront des pianistes de jazz vraiment de haut niveau. Il y aura Léo Tardin, qui est un jeune pianiste suisse qui commence à se faire connaître vraiment sur la scène internationale. Et puis Antonio Farau, pianiste italien qu'on avait eu l'occasion de découvrir avec feu Didier Locoud, qu'on a eu encore la chance d'accueillir avant son décès.
Thomas Lousley qui répondait à Nina Beret. D'après le coordinateur, le jazz fait partie de l'ADN du Café du Soleil. C'est grâce à ses concerts que l'espace culturel s'est fait connaître à partir des années 80. La programmation complète du lieu est à retrouver sur rfj.ch.
Il est 18h12 sur RFJ.
Le sport avec la Loterie Romande.
Stan Wawrinka se sent bien en Russie. Le Vaudois s'est qualifié cet après-midi pour les demi-finales du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg. Il s'est défait du Bosnien Damir Dzumur en deux manches, 6-3, 6-4. Le Suisse retrouvera demain le Slovaque Martin Klizan pour une place en finale. On va chausser les pointes et les patins à glace ce soir dans Cap Sport. L'émission sportive de la rédaction accueille Jonas Fringeli. Le décathlonien vient d'annoncer sa fin de carrière. Le Jurassien est le meilleur spécialiste des épreuves combinées en Suisse avec 10 titres à son actif. Et on va aussi se plonger dans le nouveau championnat de National League de hockey sur glace. La saison s'ouvre ce soir. 11 équipes veulent faire tomber le champion Zurich de son piédestal. Décryptage avec l'ancien arbitre Stéphane Rochette et notre consultant Christophe Val. Cap Sport, c'est donc ce soir de 18h30 à 19h. Belle soirée.
Il va pleuvoir ce soir, mais selon Météo News, les averses cesseront durant la nuit. Demain, le temps dès le matin sera sec et il le restera. Et si, comme dit dans le journal, les températures feront le yo-yo, eh bien les nuages, eux, joueront à cache-cache avec le soleil. Un soleil qui sortira victorieux de ce petit jeu dès la mi-journée. À l'aube, le froid sera de mise et il fera entre 10 et 12 degrés. Les maximales, elles, friseront les 20 degrés.